Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier.
Au sommaire des enjeux, 4 ans de junte et de manifestations en Thaïlande, le populisme de la Thaïlande aux Philippines.
Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Oui, il y a eu des arrestations après ces manifestations de mardi en Thaïlande pour réclamer des élections. 4 ans donc après le coup d'état militaire, le régime thaïlandais démocratique, ou qu'il était encore il n'y a pas si longtemps, se durcit à l'image de toute l'Asie du Sud-Est peut-être. Bonjour Sophie Boisseau-Durocher.
Bonjour.
Et merci d'être venue, chercheuse associée au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Alors, des incertitudes inquiétantes, c'est ce que vous écrivez dans le dernier rapport Ramsès au sujet de cette Asie du Sud-Est. Illustration donc en Thaïlande, monarchie constitutionnelle ancienne, mais instable politiquement et sous contrôle des militaires depuis 2006, avec d'hypothétiques élections législatives en 2019. Législative, il y en aura dans 2 mois au Cambodge, mais là, les leaders de l'opposition sont neutralisés par la justice, malgré les appels de la communauté internationale à des élections équitables. En Birmanie, cette fois, la tenue de prochaines élections est suspendue au bon vouloir de la junte au pouvoir, qui a été au pouvoir pendant 40 ans. Resserrement autoritaire et affaiblissement du pluralisme également en Indonésie, aux Philippines. Ce sont les 2 ans depuis l'élection de Duterte. Alors, s'agit-il d'un phénomène global, Sophie Boisseau-Durocher? C'est vrai que les dernières élections en Malaisie et la fin de 10 ans de pouvoir de Najib Razak suggèrent le contraire. Certains parlent de l'influence d'un modèle chinois sur ces 6 pays de l'ASEAN dont on parle, d'autres d'une post-démocratie, de démocratie libérale à l'asiatique, de populisme à voir. En tout cas, c'est vrai qu'il y a eu un balai assez étonnant en Malaisie, peut-être une hésitation, je le résume, à la fois la fin du parti dominant depuis plus de 60 ans, mais pour remettre au pouvoir l'ancien Premier ministre de 92 ans, Mahathir Mohamad.
Oui, c'est un déroulement, je dirais, qui a été tout à fait imprévu. D'ailleurs, quand Mohamad Mahathir a annoncé qu'il était candidat pour l'opposition il y a environ 2 mois, personne ne lui donnait en fait une chance, tellement le poids de l'UMNO, c'est-à-dire le parti malais en place en Malaisie depuis 1957, c'est-à-dire depuis l'indépendance, la Malaisie n'a connu qu'un gouvernement UMNO, eh bien personne n'y croyait. Et puis au fond, ce dont on s'est rendu compte, c'est que en dépit des multiples obstacles qui ont été mis sur sa route, en dépit des découpages électoraux tout à fait favorables à la coalition au pouvoir, puisque l'UMNO fait partie d'une coalition, c'est le parti le plus important d'une coalition, en dépit d'une campagne électorale très courte, eh bien Mahathir Mohamad a réussi, et largement, à remporter son pari, puisque 48% des voix se sont exprimées en sa faveur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 8 des 13 États de la Fédération de Malaisie sont passés, entre guillemets, à l'opposition. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas vraiment une opposition. C'est-à-dire que quand Mahathir a été Premier ministre, ça a été le Premier ministre de l'UMNO.
Exactement, hein. Il a complètement retourné sa veste.
Alors, il n'a pas retourné sa veste, mais il a en tout cas évolué et il a compris que le gouvernement et l'administration de Najib Razak, en place depuis 2008, étaient complètement à bout de souffle. Et que précisément, en fait, depuis 10 ans, Najib Razak n'avait fait qu'exacerber les déficiences du parti UMNO. Et donc, il était nécessaire, précisément, de revenir à, d'une part, un état de droit, comme il l'a annoncé, à une justice beaucoup plus équitable, à des mœurs politiques plus propres. Et il a surtout senti qu'il y avait des attentes de la part de la jeunesse qu'il fallait aujourd'hui combler sous peine d'aller vers quelque chose de très grave. Alors, donc, si vous voulez, il y a une convergence entre les attentes de la jeunesse qui votait pour l'opposition depuis 2013. Les élections de 2013 avaient déjà été une première alerte pour l'UMNO. Et puis, surtout, le personnage de Mahathir qui rassurait, je dirais, les plus vieilles générations et donc qui ont été prêtes à faire ce saut dans l'inconnu parce qu'il était dirigé par Mahathir.
Alors, on pourrait dire Najib Razak, victime d'un dégagisme qu'il a un peu provoqué, la réhabilitation aussi de l'ancien Premier ministre autrefois ostracisé et mis en prison
par Mahathir, précisément.
Par Mahathir Anwar Ibrahim. Donc, dans cette situation-là malaisienne, plus d'ouverture, il y a 2 échéances électorales donc dans la région à venir maintenant. Au Cambodge, d'abord les élections en juillet 2018. Là, le Premier ministre Hun Sen, on pourrait dire, prépare le terrain en mettant hors jeu ses deux opposants. Il y en a un qui est exilé en France et l'autre qui est sous le coup encore d'une inculpation, en muselant la presse également. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette élection en termes d'ouverture, de pluralisme?
Écoutez, je crois que peu de personnes auraient parié pour un basculement comme celui auquel on a assisté en Malaisie. Donc je crois qu'il ne faut pas annoncer la victoire de Hun Sen. Je crois que précisément Hun Sen a très peur. Il se rend compte qu'il y a un véritable risque à rester au pouvoir pendant aussi longtemps. Je rappelle que Hun Sen est Premier ministre du Cambodge depuis 33 ans. C'est le plus vieux Premier ministre en place. Et précisément, il s'essouffle. Et son parti, le parti du peuple cambodgien, s'essouffle également. Donc c'est un parti népotique, c'est un parti corrompu, c'est un parti qui ne tolère pas la contradiction. On le voit avec l'opposition et il la tolère de moins en moins et de façon de plus en plus radicale. On a vu précisément récemment des assassinats politiques qui portent un véritable discrédit sur le régime. Alors comment va réagir la jeunesse? C'est là aussi le paramètre le plus important. Il y a des sondages qui donnent Hun Sen perdant, mais il y a un point là important, c'est que San Renzi, qui est en exil donc à Paris, est en train de, je dirais, est réactive évidemment, et active.
Donc je précise pour nos auditeurs, cet opposant le plus sérieux, puisqu'il a fait à peu près 21% aux dernières élections. Qu'à 44% même aux dernières, je crois.
Oui, à peu près à égalité. Voilà. Le parti au pouvoir a fait 47%, donc en fait, Sam Renzi dit, moi j'appelle au boycott, parce que au fond, c'est la façon la plus passive, et donc la plus raisonnable, de faire partir Hun Sen. Donc en fait, lui a une approche tout à fait différente, et on a des chances de voir peut-être un jour nouveau au Cambodge.
Bon, ben, à voir ces élections qui devraient se tenir, je crois, en juillet,
le 29 juillet prochain.
C'est bien ça. Alors justement, c'est intéressant que par deux fois dans ces deux pays qu'on vient d'évoquer, Malaisie et Cambodge, vous parliez de la jeunesse, puisque en Thaïlande, donc là, pas encore de date pour les élections en 2019, mais ce qu'on voit dans ces manifestations récentes, c'est non plus seulement ces chemises rouges qui manifestent, voilà, mais des manifestations d'abord étudiantes qui elles-mêmes comprennent certains opposants ou anciens opposants qui étaient les chemises rouges et non pas les cadres de l'ancien parti Feu Thaï qui eux sont neutralisés par procédure judiciaire. Est-ce qu'on voit une nouvelle opposition?
Alors on voit une nouvelle opposition. Il y a effectivement un nouveau parti politique qui a été créé, qui est le parti du nouveau futur, qui a été créé par des jeunes, et on peut espérer que ce parti, par des moyens qui soient des moyens souterrains, notamment les réseaux sociaux, puisque les médias, la télévision, etc., sont complètement sous l'emprise de la junte, ils puissent faire passer un nouveau message et surtout faire bouger les choses. Je rappellerai quand même qu'en Thaïlande, les dernières élections datent de 2011. Donc on va avoir à peu près 10 ans, parce que 2019, c'est assez optimiste encore comme échéance électorale, d'une période sans élection. Donc, si vous voulez, on voit bien qu'il y a aujourd'hui la mise en place d'un régime militaire qui se durcit depuis maintenant 4 ans, puisque le général Prayut a opéré son coup d'État en mai 2014, qui a mis en place une constitution validée en avril 2017 qui lui donne des pouvoirs magistraux.
Et d'ailleurs, trois cadres du parti Feu Thaï arrêtés encore lundi dernier, des cadres importants dont un ancien ministre. Justement, encore un trait intéressant, peut-être commun entre ces pays, il faut le dire, c'est le rôle des monarchies. Beaucoup le sont, je dis monarchie constitutionnelle pour la Thaïlande.
Cambodge.
Et le Cambodge, justement.
Et la Malaisie est également une royauté, un sultanat.
Et justement, sur le rôle de cette monarchie, il y a quelque chose d'assez intéressant. On peut avoir l'impression qu'à chaque fois qu'il y a ou bien coup d'État, ou bien une mesure très importante à prendre qui n'est pas forcément consensuelle, le roi intervient, par exemple, pour donner son appui aux putschistes dans le cas de la Thaïlande et à Hun Sen, ou pour gracier Sam Renzi, justement, là c'était en 2006, ou encore pour gracier Anwar Ibrahim en Malaisie tout récemment, cet opposant qui avait été arrêté. Quel rôle jouent ces monarchies?
Alors, c'est une légitimité de façade quand même. Sur le plan opérationnel, sur le plan dans l'arène politique, aucune des monarchies n'a véritablement de pouvoir, à l'exception de Brunei, qui est un sultanat dirigé par un sultan. Donc le rôle du roi est surtout d'avaliser les politiques mises en place par le gouvernement. Mais effectivement, La monarchie a également une valeur rituelle très importante et elle sert à aviliser les retours en grâce ou les changements qui s'opèrent dans le pays. On a vu à quel point d'ailleurs les militaires avaient usé de la caution monarchique pour justifier leur coup d'État au nom de la protection de la monarchie.
Merci, merci beaucoup Sophie Boisseau-Durocher, chercheuse associée au Centre Asie de l'IFRI. Je renvoie bien sûr nos auditeurs au site internet pour la suite de cette interview, les informations complémentaires et les vidéos mises en ligne par Claude Armand de Castio. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous à lundi.